Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène à évoquer les marchés de crédit pour dresser un état des lieux de rentrée, notamment après le coup de chaud estival et ce point paroxystique du 5 août. On a beaucoup parlé de la correction des actions, de la baisse de 12% du Nikkei ce jour-là. Beaucoup parlé des mouvements de devises également avec les positions de carry trade yen dollar. L'idée étant de voir comment le crédit a traversé cette petite tempête estivale. C'est Edouard Faure qui est à mes côtés pour en parler, le responsable du crédit chez Swiss Life Asset Management. Bonsoir Edouard.
Bonsoir Grégoire.
Merci beaucoup d'être là. Oui, faites-nous un peu la séquence de ce qui s'est passé sur ces marchés de crédit au cours de cette petite tempête estivale et comment est-ce que ces marchés et jusqu'où ces marchés sont revenus au moment où on se parle en cette fin de mois d'août, Edouard.
Oui, effectivement, une fois n'est pas coutume, le mois d'août nous a réservé un peu de volatilité. Hein. Ça aurait été trop beau d'avoir un marché tout plat ou tout droit, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin de l'été. Effectivement, on a eu, alors c'était très court, hein, 2 jours, comme vous l'avez dit, de volatilité, mais très intense. Et le crédit n'a pas échappé à la volatilité. Clairement, les primes de risque se sont écartées de manière assez massive, hein, entre 15 et 17 BP sur l'investment grade en Europe et aux US, et entre 50 BP sur le yield euro et 70 BP sur le yield US. Donc, un écartement massif, et surtout sur une...
Ouais, sur deux séances, quoi, oui, en 2 jours.
Très, oui, très bien court. Sûr. Ouais. Et quand on regarde les indices de CDS, c'est encore plus intéressant, parce qu'on voit que le mouvement a été exacerbé, en particulier en Europe et sur le yield euro. Hein, quand on regarde l'indice, le crossover, l'Itrax crossover, ouais. On s'est écarté de 20 points de base de plus que les obligations.
Ça veut dire que les coûts de protection se sont envolés, effectivement, exactement. Derrière ces écartements de crédit, de dettes d'entreprise. Hein,
exactement, ça s'est complètement envolé. Donc, il y a eu une vague d'achats de protection très importante de la part des acteurs de marché avec un coût de protection qui s'est énormément volé parce que finalement arrivé au 5 août on savait pas trop où le marché allait aller et bon le fait est que tout s'est bien terminé mais il y a eu ce pic de volatilité important, pic de volatilité qui finalement s'est rapidement diminué comme je le disais précédemment via un chiffre américain sur l'ISM qui a été un meilleur qu'attendu l'après-midi du 5 août et qui a permis de calmer les choses dans une période où il y a moins de liquidité, hein, donc moins de mouvements exagérés normalement à ce moment-là. Et on a continué le mois d'août avec toujours l'esprit du crédit, l'esprit de portage qui reste attractif, hein, malgré la baisse des taux, malgré tout ça, et l'écart des spreads a permis de rajouter un peu plus d'attractivité à cette classe d'actifs. Et donc, du coup, on a vu quand même un peu d'achat, notamment sur la partie de la très bonne qualité du crédit au cours du début du mois d'août. Et ensuite, on a eu le discours de Jerome Powell qui nous a annoncé que normalement, on devrait avoir des baisses de taux aux États-Unis. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans un marché où, aux États-Unis, les primes de risque à la fois sur l'investment grade et sur le yield sont plus serrées que le 31 juillet avant le pic.
Donc, on est complètement revenu. Complètement effacé l'épisode. Alors.
Complètement revenu. En Europe, sur l'investment grade, on est encore légèrement au-dessus en termes de primes de risque par rapport au niveau du 31 juillet. En revanche, sur le high yield, on est aussi revenu plus bas que le 31 juillet. Donc nous, on a, sur la partie crédit, quasiment effacé la totalité de la volatilité de début août, à part sur l'IG en Europe, mais c'est marginal.
Et vous dites effectivement la stratégie de portage, de détention et de recherche de rendement à travers ces outils, ces instruments de marché, ce crédit sur le marché. Vous dites ces stratégies-là, elles restent complètement valables aujourd'hui, y compris avec la perspective d'avoir, 50, 100 points de base de baisse de taux peut-être côté américain d'ici la fin de l'année, peut-être autant côté européen. Ça reste quand même la stratégie dominante, j'ai envie de dire, sur ces marchés aujourd'hui.
Complètement, et j'ai envie de dire, c'est presque plus que jamais la stratégie dominante. Ouais. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes un investisseur long terme, vous avez envie de cristalliser ces rendements attractifs que vous avez sur le marché. Le moyen de le faire, c'est d'acheter des obligations et de les porter jusqu'à leur échéance. Donc aujourd'hui, si vous savez qu'il va y avoir des baisses de taux dans les prochains mois et que probablement les rendements sur le marché, toutes choses égales par ailleurs, si les taux baissent, vont baisser
en ligne,
vous avez tout intérêt à acheter vos obligations aujourd'hui, à les porter jusqu'à l'échéance. Alors, il faut bien les sélectionner quand même. Il ne faut pas avoir d'événements de crédit, il faut faire attention à certains secteurs. Enfin bon, voilà.
On a intérêt d'avoir des professionnels pour le faire. Oui, non mais...
C'est ça, on essaie.
Oui, non mais...
et du coup, vous cristallisez ces rendements attractifs et vous subissez... Vous achetez pas trop tard après la baisse des taux, en fait.
Oui, et puis, il faut bien comprendre que pour l'instant, les banques centrales baissent les taux, parce que l'inflation a baissé. C'est-à-dire que le rendement réel derrière, il reste très attractif, j'imagine, que ce soit sur du high yield ou de l'investment grade aujourd'hui.
Ah, complètement. Ouais. Le rendement réel reste attractif. Ensuite, on commence à avoir quand même un peu de stress. Alors, stress, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, un peu de défiance sur les fondamentaux de certaines entreprises. Ouais. Donc ça, c'est un point qu'il faut garder en tête, parce que le ralentissement de l'économie qu'on a vu aux États-Unis, qui a exacerbé le mouvement de début août, il est là. Et c'est un point qui va être à l'attention des investisseurs dans les prochains.
Qu'est-ce que vous observez, qu'est-ce que vous suivez particulièrement, justement du point de vue des fondamentaux, comme secteur en Europe, aux États-Unis? Alors, les marchés de crédit sont des marchés peut-être les plus connectés à la réalité économique, peut-être un peu plus que les marchés actions. Et donc, évidemment, on cherche toujours, pour un investisseur global, dans les marchés de crédit, des signaux précurseurs avancés qui pourraient ensuite avoir des répercussions sur d'autres classes d'actifs jusqu'aux actions. Oui, quels sont les signaux ou les secteurs là, que vous surveillez de près aujourd'hui, Edouard?
Complètement. Alors déjà, on a eu des résultats au premier trimestre 2024 qui étaient plutôt très bons globalement sur l'ensemble des secteurs. Et là où ça commence à se gâter, c'est à partir du deuxième trimestre. Ah. Et il y a en particulier un secteur qui souffre aujourd'hui pour des raisons intrinsèques, mais pas que, c'est le secteur de l'automobile. Le secteur de l'automobile, c'est un bon secteur pour donner des indicateurs avancés de la consommation, etc. En fait, quand vous avez besoin de vous serrer la ceinture, vous n'allez pas changer votre voiture. Et puis, s'il faut continuer de se serrer la ceinture, vous allez passer aux autres biens de consommation, les vêtements, etc., etc., les loisirs, etc. Donc c'est vraiment un très bon...
C'est en première ligne dans la consommation discrétionnaire.
Exactement, exactement. Ouais. C'est un bon indicateur de ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, plutôt au mois de juin et de juillet, hein, on a vu des révisions à la baisse dans le secteur automobile de la part de l'ensemble des constructeurs automobiles, de leurs revenus et de leurs marges. Hein, en moyenne, sur les revenus, on est à moins 5% par rapport aux prévisions initiales, donc c'est quand même conséquent. Sur fond de quoi? Sur fond d'augmentations salariales qui sont encore à passer, donc pour eux, c'est coûteux. Sur fond de tensions Chine-États-Unis, donc toujours les problèmes d'approvisionnement qui peuvent être coûteux. Et sur fond... Eh bien, encore une fois, de ralentissement économique qui a un point important pour ces constructeurs-là. Et enfin, et ça, c'est probablement le problème intrinsèque à ce secteur-là, c'est les véhicules électriques qui n'ont pas du tout l'effet escompté. Les véhicules électriques sont en forte baisse en termes de vente et ça impacte clairement beaucoup les...
C'est plus ça. On enlève les subventions sur les véhicules électriques, plus la demande s'affaiblit. Hein.
C'est étonnant.
C'est une nouvelle leçon, je ne sais pas, elle n'est pas très nouvelle, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se... fonctionne aujourd'hui et que ça se dissémine dans ce secteur automobile.
Complètement, et sur ce point particulier des véhicules électriques, c'est intéressant de regarder les prévisions des constructeurs automobiles fin 2023 sur leur production de véhicules électriques. Ouais. Et de regarder...
Ce qu'ils disent aujourd'hui.
Voilà, ce qu'ils disent aujourd'hui. Ouais. Et ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est 2025, moins 50% sur la par rapport à la production qu'ils avaient
prévu fin 2023.
Ouais. Ils avaient prévu fin 2023. Attends. Moins 35% en 2026, moins 30% en 2027. Ouais. Donc on est vraiment...
Gros réajustement.
Sur des très très gros réajustements. Ouais. Et ces réajustements, du coup, vont continuer à avoir des impacts à la fois pour les constructeurs et pour les équipementiers automobiles. Parce que finalement, eux arrivent un peu plus tard dans le cycle. Hein, et donc du coup, ils commencent à être impactés. D'ailleurs, on a vu des baisses de notation de la part des SNB, notamment sur Forvia, l'ancien Faurecia, qui avait pour but de passer investment grade fin 2024, courant 2025. Bon, visiblement, ça risque d'être retardé. Et le problème, c'est que si cette dynamique sur les véhicules électriques ne reprend pas, évidemment, ce genre d'équipementier va avoir beaucoup de mal à pouvoir redynamiser ses ventes. Donc effectivement, pas mal de stress sur ce secteur-là qui pourrait se translater si l'économie continue à ralentir sur les autres secteurs.
Bonne manière de suivre effectivement la vitesse du ralentissement économique et de la consommation dans différents pays ou des différentes zones économiques partant de ce secteur automobile.
Exactement, avec toujours quand même le caveat qu'il y a des problèmes intrinsèques à ce secteur,
oui, oui,
qui sont les véhicules électriques, mais c'est un fait, c'est un bon indicateur. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, sur nos investissements, on est relativement prudent sur les secteurs cycliques parce qu'on pense qu'il est encore trop tôt pour s'y repositionner. Et quand on voit le niveau des spreads, on le disait juste avant, ils sont revenus au plus bas depuis le début de l'année.
Ouais.
Quel intérêt d'aller se positionner?
Pas très confortable.
Non, voilà. Ouais, on est très confortable avec le crédit. On pense que c'est une bonne classe d'actifs qu'il faut aller dessus. Même sur le yield, on pense qu'il y a vraiment des choses à faire. En revanche, il faut vraiment rester sur les secteurs les moins cycliques. En plus, on a plus de corrélation au taux. Si les taux continuent de baisser, normalement, on devrait plutôt bien se comporter. Après, sur les taux et sur la duration, on a une vue aussi qui était vraiment très forte. Avec, on a beaucoup augmenté les durations dans les portefeuilles. Et avec le rallye des taux au cours de l'été, on est plutôt tendance à prendre quelques profits. On pense qu'il faut toujours être long duration, mais moins long que ce qu'on était.
J'entends.
Parce qu'on pense quand même qu'on est dans une situation où finalement, la Fed a essayé de nous éclairer et il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce que les baisses vont contenter le marché? Est-ce que trop de baisses ne vont pas inquiéter le marché?
C'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec les stratégistes, hein, 3,85 sur le 10 ans américain, s'il n'y a pas de récession, c'est presque déjà bien payé et c'est peut-être déjà un peu cher.
Exactement.
S'il y a une récession, c'est peut-être encore value. Mais donc, voilà, tout dépend effectivement du futur macroéconomique devant nous.
Exactement.
Merci.
Donc, il faut rester prudent sur la duration, ouais. Mais rester un peu long duration.
Merci beaucoup, Edouard. Merci de nous avoir éclairé sur la situation des marchés de crédit en cette rentrée. Vous êtes responsable du crédit chez Swiss Life Asset Management. Edouard Faure, qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.